1, 2, 3. Bonjour à tous. Alors, si certains d'entre vous n'ont que le son, je précise que c'est Jean-Paul Tabaret qui vous parle de Thonon-les-Bains. Notre Église applique évidemment les consignes gouvernementales et essaie de vivre sa vie de manière adaptée, sans rien laisser de côté, et même en imaginant des pratiques innovantes. Alors, je vous parle actuellement de mon appartement et je vous propose de laisser de côté les difficultés créées à l'occasion de la situation sanitaire, même si les difficultés en question seront un peu sous-jacentes à mon propos, dans la deuxième partie de la prédication notamment. Alors, voilà de quoi sera faite la prédication du jour. Une réflexion peut-être auparavant. L'évangile de Matthieu nous met en garde à la fois contre l'attrait trompeur des richesses et contre les soucis de ce monde dans la parabole du semeur. Alors précisément, Matthieu 13, verset 22, indique « Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. » Alors, le but de la prédication n'est pas de parler de la parabole du semeur. Et cette lecture préliminaire là, que je viens de faire veut simplement souligner le rapport qui existe entre l'attrait trompeur des richesses et les soucis de ce monde. Il y aura deux parties dans cette prédication. Elle durera environ une demi-heure. Et nous allons aborder immédiatement la première partie qui parle de l'attrait trompeur des richesses. Alors pour cela, nous allons lire dans Matthieu 6, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 24. Le texte va s'afficher pour vous et moi je vais lire dans ma Bible. Matthieu 6, versets 19 à 24. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouves-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Alors, nous évoquons dans cette première partie l'attrait trompeur des richesses. D'après ce texte que nous venons de lire, il y a deux sortes de biens, les richesses sur la terre et les trésors dans le ciel. Vous notez que ce sont deux mots qui sont différents, qui sont utilisés, du moins ma traduction. Le mot « richesse » pour ce qui touche à la terre et le mot « trésor » pour ce qui touche au ciel. Les richesses terrestres sont périssables. Elles subissent la rouille, les mites ou les attaques des cambrioleurs. Elles peuvent être anéanties en un instant. Par exemple, ce magnifique 4x4 peut être volé. Cette magnifique villa au soleil de la Corse peut être plastiquée. Cet argent précieusement déposé à la banque peut disparaître dans une crise boursière, etc. Au contraire, les trésors dans le ciel ne sont pas sujets à ces attaques. Ce n'est pas dit explicitement, mais la conséquence est qu'il demeure éternellement. Voilà, vis-à-vis de ces deux types de richesses, le passage est clair. Ne pas amasser les premières, mais au contraire, amasser les secondes. Alors, le verbe amasser, sauf erreur, est de la famille de masse, probablement, et il suggère une grande quantité. Nous ne devons pas détenir une grande quantité de richesses terrestres, nous devons détenir, au contraire, une grande quantité de trésors célestes. Alors, dans la recherche des richesses, il y a probablement aussi l'idée d'employer, de déployer tous nos efforts pour obtenir ces richesses. Et nous devons déployer, employer tous nos efforts pour obtenir les richesses célestes, pas pour obtenir les richesses terrestres. La nature des richesses que nous recherchons est un indicateur de notre état spirituel. C'est ce que dit très exactement le verset 21. Je le relis. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous recherchons les richesses terrestres, notre cœur est attaché à la terre. Si nous recherchons les trésors célestes, notre cœur est attaché au ciel. Et comme les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont pas du monde, leur cœur ne doit pas être dans le monde et par suite, leur trésor non plus. Le verset 21 que nous venons de lire condamne lui aussi la recherche des richesses terrestres dans une perspective du moins de les amasser. L'attachement aux richesses terrestres fausse notre conscience. On peut le comprendre dans le verset 22 et le verset 23 que je vais relire. 22. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Alors d'une part, les yeux sont comparés à une lampe qui éclaire le corps. Et d'autre part, Jésus affirme que l'état du corps entier, c'est-à-dire la personne entière, son état est le même que celui de l'état de l'œil. Si les yeux sont en bon état, le corps est dans la lumière. Si les yeux sont malades, le corps est dans l'obscurité. D'où l'importance de cette lampe un peu mystérieuse qui donne la lumière ou ne la donne pas. Alfred Kuhn pense que cette lumière, c'est la conscience. L'attachement aux richesses fausse la conscience. La lampe ne donne plus sa lumière et donc la personne entière va mal. Le chrétien a un choix à faire. Par sa nature régénérée, il appartient au ciel. Par sa conduite, il ne doit donc pas appartenir à la terre. C'est aussi ce que dit le verset 24 qui sert de conclusion à ce passage, je le relis. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Dans la plupart des traductions, il est dit « vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon ». Pour aller vite, Mammon représente l'argent divinisé et le matérialisme outrancier. Jésus utilise l'image du maître et du serviteur et indique qu'un serviteur ne peut pas servir deux maîtres en même temps, sous-entendu si les deux maîtres ont des intérêts opposés. Et il applique cette image à deux maîtres possibles. Dieu, c'est-à-dire le ciel, et l'argent, c'est-à-dire la terre. On ne peut servir en même temps Dieu et l'argent. L'argent avec un A majuscule, c'est-à-dire l'argent divinisé. Deux précisions maintenant pour terminer. Je vais très vite pour ces précisions. Pour réserver deux temps pour deux anecdotes à la fin de la prédication. Première précision, l'attrait de l'argent est un sujet à prendre au sérieux. Je renvoie à 1 Timothée 6,10, que je ne lis pas, qui cite un verset populaire de l'époque, affirmant que l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Maux, M-A-U-X, le pluriel de mal. Et puis, deuxième précision, Dieu n'est pas contre les richesses. Mais ce qui est en cause, c'est la manière dont nous les gérons. Alors, je vous laisse, si vous le souhaitez, lire 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19, et intégrer l'idée que comme intendant de ce que Dieu met à notre disposition, les chrétiens placent leur espérance en Dieu seul. Nous abordons maintenant la deuxième partie de la prédication qui évoque les soucis de ce monde. Et pour cela, nous lisons toujours dans Matthieu 6, les versets qui suivent, du verset 25 au verset 34. Alors, un texte doit s'afficher. Moi, je lis dans ma Bible, le passage est un peu long, je le lis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens qui sont aux cieux s'en préoccupent. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Je relis ce verset 32, je crois que j'ai changé un mot. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, dans cette deuxième partie, nous parlons des soucis de ce monde. Alors, le mot d'ordre du passage est clair. Ne vous inquiétez pas. Si nous ne retenons qu'une chose dans cette deuxième partie, c'est cette exhortation, ne vous inquiétez pas. L'exhortation est donnée à trois reprises dans ce court passage. Au verset 25, ne pas s'inquiéter pour le manger, pour le boire, pour les vêtements. Verset 31, c'est exactement la même idée. Je relis le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous nous habillerons-nous. Et le verset 34, qui est un verset magnifique, qui clôt ce passage, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En cette période difficile, je crois que nous devons garder dans nos cœurs ce magnifique verset. Le texte que nous avons lu nous donne 5 raisons pour combattre l'inquiétude. Je vais assez rapidement. La première, c'est que Dieu s'occupe des moindres créatures. À plus forte raison, s'occupe-t-il de ses enfants? Il cite les oiseaux, il cite les lys sauvages, et au verset 30, Il cite même la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui, demain, sera jetée au feu. Alors, il est question là de cette petite plante des champs jetée au feu. C'est une allusion au fait qu'on utilisait les plantes séchées, abondantes, paraît-il, à l'époque de Jésus, comme combustible dans des petits fours familiaux pour cuire les aliments. Certaines traductions, celles que j'ai en particulier, parlent à un certain moment du lys des champs. Le lys des champs, ce serait, d'après Alfred Kuhn, l'anémone palestinienne qui possède une tige assez dure et forme ainsi une sorte de brindille à fort pouvoir calorifique. L'inquiétude, deuxième raison, est inutile. Lisons le verset 27. Je le recherche dans ma Bible, verset 27. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Certaines traductions ont « qui peut ajouter une coudée à sa vie ?» La coudée, c'est la distance entre le coude et l'extrémité des doigts, un peu moins de 50 cm. La coudée est une unité de longueur, ce n'est pas une unité de temps. Mais unité de longueur, unité de temps, bon, c'est la même idée. Il nous est impossible d'allonger notre vie qui est entre les mains de Dieu, et toute l'inquiétude qu'on pourrait y rajouter ne servirait à rien. Troisième raison, l'inquiétude est pour les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu en d'autres termes, et pas pour les enfants de Dieu. Au verset 32, je relis, toutes ces choses qu'on a évoquées, le manger, le boire, les vêtements, on peut dire, etc. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Quatrième raison, peut-être la plus importante, on y reviendra rapidement un peu plus loin, l'inquiétude n'est pas nécessaire et le royaume de Dieu est prioritaire. C'est dit au verset 20, verset 33. Là, je lis ce verset parce qu'il est important. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, etc., le toit, etc., toutes ces choses vous seront données en plus. Enfin, cinquième raison, l'inquiétude ajoute inutilement au fardeau de la vie. La vie a son lot de fardeaux, mais l'inquiétude ajoute inutilement à ce lot de fardeaux. C'est le verset 34, très beau verset, je l'ai dit, enfin, pour moi, qui clôt ce passage. « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Deux précisions pour terminer cette deuxième partie. Et là encore, je vais très vite sur ces précisions pour la raison que j'ai déjà donnée. Première précision, le rejet des soucis n'encourage pas le laisser-aller et n'exclut pas le travail et la prévoyance. Je vous renvoie à quelques passages que je vous laisse lire, enfin, que je vous invite même à lire. Je vous renvoie à 1 Timothée 5, verset 8, 2 Thessaloniciens 3, verset 11. Jésus n'encourage pas la paresse, mais il veut s'opposer à la tension intérieure qui est créée par les soucis, et il nous exhorte à rejeter les soucis. Je vous renvoie aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, par exemple, à Psaume 55, verset 23, dans l'Ancien Testament, et à Philippiens 4, verset 6, dans le Nouveau Testament. Et comme c'est un verset important, celui-ci, contrairement aux autres, je vous le lis, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Deuxième précision, c'est un rapide retour sur le verset 33 que j'ai déjà lu. Le règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux doivent être notre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ce verset constitue l'apogée de ce passage consacré aux soucis. Alors, au lieu de mettre en avant des aspects négatifs, ne vous inquiétez pas. Jésus, cette fois-ci, insiste sur un aspect positif, mettre en priorité le règne de Dieu et la justice. Et à cette condition, mettre en priorité le règne de Dieu et la justice, l'inquiétude n'aura pas de place. J'ai promis deux petites anecdotes pour terminer. Les voici. Elles concernent toutes les deux le réformateur Luther. D'abord, une anecdote qui parle du découragement, lequel est souvent dû à un fardeau trop lourd dont il faut nous décharger. Alors, un auteur que vous connaissez peut-être, il est auprès du Seigneur actuellement, je l'ai connu dans ma jeunesse, qui s'appelle André Dangean, dans son livre, l'un de ses livres, qui s'intitule « Les plus grandes et les plus précieuses promesses », raconte une anecdote qui est liée à Luther et à son épouse. Je ne sais pas où André Dangean a trouvé cette anecdote. Bon, on va lui faire confiance. Alors voici l'anecdote. L'épouse de Luther fut affligée de voir son mari triste et découragé pendant plusieurs jours consécutifs et eut l'idée de mettre ses habits de deuil. Alors les habits de deuil, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, mais j'ai connu ça dans mon enfance. Dans mon enfance, on avait tous dans notre armoire un habit de deuil, c'est-à-dire un costume pour les hommes et puis une robe et un manteau pour les dames, tout noir, et on ne revêtait ces habits que lorsqu'il y avait un décès proche ou lorsque, éventuellement, on se rendait à l'enterrement, à la sépulture de quelqu'un parmi nos connaissances. Alors, l'épouse de Luther, affligée de voir son mari triste et découragé pendant plusieurs jours, décida, je l'ai lu tout à l'heure, de mettre ses habits de deuil un matin. Et André Dangean raconte le dialogue suivant, qui est évidemment approximativement reconstitué. Ce n'est qu'une anecdote, hein. Ce n'est pas un fait historique certifié par les historiens. C'est la femme qui commence à parler. C'est Luther qui commence à parler. « Mais pourquoi portes-tu le deuil ? Qui donc est mort ?» Sa femme. « Bah, Dieu est mort, c'est évident. » Luther. « Mais comment peux-tu dire ça ? Tu blasphèmes ? » La femme. « Mais non, c'est toi qui blasphèmes. Pourquoi es-tu triste et découragé si Dieu est encore vivant pour te secourir ? Je répète, pourquoi es-tu triste et découragé si Dieu est encore vivant pour te secourir ? André Dangean, dans son anecdote, raconte que Luther reconnut qu'il avait mérité la leçon. Il se ressaisit et reprit courage sur le champ. Alors, ensuite, et ce n'est plus une anecdote, je vous livre un texte alors, qui est bien identifié de Luther. Les sources, en principe, sont affichées devant vous. C'est un texte connu, Il circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux en ce moment parce qu'un certain nombre de chrétiens l'ont exhumé du livre où il était. Vous le trouvez sur un site dont le lien est affiché. Et je vous lis ce texte qui est normalement en vieux français, mais qui a été un peu actualisé. C'est Luther qui parle. Je ne sais pas si j'ai dit, mais je dis ou je redis qu'il a écrit ce texte au moment d'une épidémie de la peste qui ravageait l'Europe. Il écrit « Je demanderai à Dieu, par miséricorde, de nous protéger, de la peste en particulier. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air. » Il faut savoir qu'à l'époque, au Moyen-Âge, à la sortie du Moyen-Âge, on faisait dans les maisons brûler un certain nombre de substances parce qu'on pensait que ça aidait à purifier l'air et donc à empêcher l'avancement de la peste. Donc Luther dit, ensuite, après avoir demandé à Dieu par miséricorde de nous protéger, il dit, ensuite, je vais enfumer pour purifier, pour aider à purifier l'air. Je vais donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire, c'est-à-dire je me confinerai pour ne pas être contaminé et aussi, c'est important, infliger et affecter les autres pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, c'est-à-dire si je viens à mourir, hein, si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, ça c'est clair, et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable, ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Et puis Luther introduit dans ses deux dernières phrases une petite nuance, il dit, si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement, comme indiqué ci-dessus. Dernière phrase, voici, c'est une telle foi, c'est toujours Luther qui parle, hein, ce n'est pas Jean-Paul Tabaret, voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. Alors, la prédication est maintenant presque terminée. Donc, on a vu deux parties et puis je vous ai cité une anecdote et un point plus historique, les deux étant consacrés à Luther. Je vais prier courtement. Donc, vous pouvez vous associer à moi dans cette prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous fait du bien et qui nourrit nos âmes. Merci pour ces moments que nous avons passés autour d'elle. Nous te prions pour que pendant cette période difficile, chacun de nous puisse se plonger dans ta parole bienfaisante. Nous te prions, Seigneur, que tu mettes dans nos cœurs le désir de rechercher les trésors célestes qui sont impérissables, plutôt que les richesses terrestres qui, elles, sont vouées à la destruction. Maintenant, et aussi plus tard, quand la situation sanitaire sera redevenue normale. Nous te disons aussi, Seigneur, que nous voulons avec ton aide rejeter toute forme d'inquiétude, alors que tant d'informations potentiellement inquiétantes sont à notre portée, même sans sortir de notre maison. Nous te prions pour que tu nous fasses la grâce de mettre toute notre confiance en toi, sans restriction. Toi qui es notre Créateur, notre Sauveur parfait en Jésus-Christ et notre Père généreux qui pourvoit à tous nos besoins. Nous te prions pour que tu nous protèges, nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos relations. Sois avec ceux d'entre nous qui sont malades. Protège tous les autres, en particulier ceux qui sont spécialement exposés, professionnellement. Garde aussi les responsables de notre Église. Donne-leur la force et la sagesse pour bien diriger l'Église dans cette période troublée. Nous te prions aussi, conformément à ta parole, pour notre pays et pour nos autorités. Donne à tous nos dirigeants qui sont en responsabilité de prendre des décisions sages et adaptées à la situation difficile que nous connaissons. Seigneur, nous sommes particulièrement conscients de ton amour. Nous savons, comme dit le psaume 103, que tu es plein de pitié et miséricordieux, plein de patience et débordant d'amour. Pour cela, nous te remercions. Amen. La prédication est maintenant terminée. Notre culte va bientôt se terminer. Que le Seigneur vous garde tous. Amen.